Mémoire d'Elizabeth Houghton, préface des éditeurs du site. Il est triste que nous ne disposions d'aucun journal faisant autorité sur Elizabeth Houghton, car son ministère fut assurément inspirant et plein de puissance. Mais les mémoires de sa vie témoignent de ses nombreuses années de ministère courageux, première femme ministre des Quakers et l'une des plus grandes ministres qu'aient eu les Quakers tous sexes confondus. En Christ Jésus, il n'y a ni homme ni femme, car tous sont fils de Dieu, à cette grande fille de Dieu, l'un des puissants serviteurs du Seigneur, nous rendons hommage et tribut. Il y eut apparemment de nombreux miracles qui accompagnèrent son témoignage et son ministère, mais nous n'en avons aucune trace définitive, sinon le commentaire très inhabituel de George Fox dans le témoignage ci-dessous pour Elizabeth. Dans les réunions à sa maison, le Seigneur, par sa puissance, accomplit de nombreux miracles. Sa bravoure et son courage sont sans pareil. Elle fut emprisonnée plusieurs fois en Angleterre. Mais, laissant son mari, son foyer et ses enfants, elle répondit à l'appel de Dieu d'aller en Nouvelle-Angleterre, où les Quakers avaient été brutalement tués et châtiés au Massachusetts et au Connecticut. Elle revint ensuite à maintes reprises à Boston et à Cambridge, à l'appel de Dieu, pour témoigner contre la brutalité du gouvernement puritain, chaque fois cruellement fouettée avec des fouets déchirant la chair, envoyée en prison, et plusieurs fois transportée dans la nature sauvage hivernale, abandonnée et laissée à mourir. Pourtant, elle n'hésita jamais à revenir encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle assiste finalement aux funérailles de son principal persécuteur, le gouverneur du Massachusetts John Endicott. Vraiment, le Seigneur fut avec elle pour soutenir son courage par sa puissance. Elle est pour nous tous un exemple d'obéissance à admirer, marchant dans les pas sanglants de son Seigneur et Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2:21 En effet, si vous êtes comme moi, en lisant ces brèves mémoires de sa vie, votre cœur sera lourd, et vous serez dans l'émerveillement qu'une personne puisse être si courageuse, car tant que nous ne témoignons pas de nos propres yeux de la puissance de Dieu sur tout le ciel et la terre, nous douterons de pouvoir un jour être aussi courageux. La vie d'Elizabeth Houghton est un chapitre fort dans le glorieux récit de la fidélité, du courage, de l'amour et de l'obéissance des premiers Quakers. En effet, tous ceux qui se complaisent dans la piété et sont déterminés à mener en Christ Jésus une vie consacrée et pieuse seront persécutés. De Timothée 3, 12 témoignages de George Fox pour Elizabeth Houghton. C'était une femme sérieuse, droite de cœur envers le Seigneur, et elle reçut sa vérité plusieurs années avant qu'on nous appelle Quakers. Le Seigneur la poussa à aller en Nouvelle-Angleterre, emmenant avec elle sa fille, pour demander aux prêtres et magistrats persécuteurs d'abolir les lois d'emprisonnement, de confiscation des biens, de flagellation, de marquage au fer rouge et de mutilation des oreilles des amis, ainsi que de mise à mort. Au lieu d'entendre ses supplications, ils la fouettèrent, elle et sa fille, très cruellement, et les chassèrent de leur juridiction. Le Seigneur la poussa à retourner au Massachusetts, où les magistrats de Boston prononcèrent alors contre elle et environ 27 ou 28 autres la sentence de mort, les gardant étroitement prisonniers. Nous obtîmes un ordre du roi Charles I et affrétâmes un navire pour le porter là-bas afin qu'ils puissent être jugés devant le roi, sur quoi ils les remirent en liberté, bien qu'ils n'aient pas aboli les lois persécutrices. Cette pauvre Elizabeth Houghton fut jetée dans bien des prisons uniquement pour avoir servi et adoré Dieu et proclamé la vérité, et vers l'année 1671, elle voyagea avec moi et d'autres à la Barbade et en Jamaïque. Étant une vieille femme affaiblie et zélée pour le Seigneur et sa vérité, elle mourut dans le Seigneur, et elle est bénie, et au repos de ses labeurs et ses œuvres la suivent. Elle fut convaincue à Skegby, dans le Nottinghamshire, et tenait des réunions chez elle où le Seigneur, par sa puissance, accomplit de nombreux miracles. Confirmant les gens dans la vérité qu'elle y reçut vers 1646, et elle accomplit son ministère et acheva son témoignage vers 1672. C'était une femme pieuse, et elle portait un grand souci que ceux qui professaient la vérité y marchent, et depuis qu'elle avait reçu la vérité, elle ne lui tourna jamais le dos, mais demeura ardente et fidèle jusqu'à la mort. George Fox, mémoire dédiée à Elizabeth Houghton. Elizabeth Houghton, 1600-1672, fut l'une des premières personnes à être convaincue de la vérité par George Fox, et la première femme à devenir ministre Quaker en 1650. Elle était l'épouse d'un certain Samuel Houghton, qui occupait une position respectable dans la société. Elle fut non seulement la première femme ministre Quaker, mais le deuxième ministre de la société, et elle fut comptée parmi les 60 vaillants, un groupe d'évangélistes suivant George Fox pour être envoyée par le Seigneur dans toute l'Angleterre. Dans son journal, George Fox la décrit comme une femme très douce, lorsqu'il lui rendit visite en 1647. Elle était une femme mariée d'âge moyen lorsqu'elle rencontra Fox en 1646 à Skegby, dans le Nottinghamshire, et elle était déjà non-conformiste, plus précisément baptiste. Elle mourut en voyageant dans le ministère avec George Fox et d'autres, en Jamaïque, en 1672. « L'amour que je porte aux âmes de tous les hommes me rend prête à endurer tout ce qu'on peut m'infliger. » Elizabeth Houghton, elle et son mari, Samuel, vivaient près de Mansfield où ils élevèrent 6 enfants. Son mari était ancien dans leur assemblée locale. En 1647, elle faisait partie d'un groupe de personnes sérieuses qui se réunissaient occasionnellement, et à cette date George Fox la mentionne comme et étant une femme très douce. Durant les 3 années qui suivirent, on sait peu de choses de sa vie. Toutefois, les réunions et discussions qu'elle eut avec George Fox semblent avoir été le moyen de la convaincre des vues spirituelles des amis. Dans son histoire, Soule dit qu'en 1650, par une vraie expérience de l'œuvre du Seigneur dans l'homme, elle se sentit poussée à prêcher publiquement la voie du salut aux autres. George Fox avait jusque-là été le seul à prêcher publiquement, elle fut donc non seulement la première de son sexe, mais la deuxième personne à apparaître en cette qualité parmi les premiers Quakers. La prédication des femmes, à cette époque, n'était pas considérée comme inhabituelle. On savait que plusieurs étaient engagés de la même manière dans divers courants religieux alors présents en Angleterre. Elizabeth était très courageuse, elle entrait seule dans les églises locales pour avertir les membres et reprendre les ministres en les traitant de faux prophètes. Elizabeth Houghton n'avait pas longtemps suivi son Seigneur dans cette haute vocation que sa sincérité et sa fidélité furent éprouvées par la persécution en prison. En 1651, elle fut emprisonnée à Derby à la suite d'une plainte l'accusant d'avoir repris un prêtre, et l'année suivante, alors qu'elle voyageait dans le Yorkshire, elle fut emprisonnée pour avoir exhorté une congrégation à Rotram à la fin du service et conduite au château d'Eyock, où, avec son amie Mary Fisher, elle fut détenue pendant 16 mois. En 1654, lors d'une mission évangélique dans le Lincolnshire, elle fut emprisonnée pendant 5 mois à Buckingham pour avoir déclaré la vérité dans le lieu de culte public. L'année suivante, elle subit 3 mois d'emprisonnement dans le même comté pour avoir exhorté le peuple à la repentance. Au cours de ses premiers voyages dans l'œuvre du ministère, elle fut aussi soumise à d'autres formes de souffrance. Aux 2 mois appelés avril 1660, astérisque Elizabeth Houghton, passant paisiblement sur la route, fut abordée par un certain Jackson, prêtre de Selston, qui l'insulta, la frappa de nombreux coups, la renversa, puis la jeta dans l'eau, alors qu'elle ne semble même pas lui avoir parlé. Astérisque commentaire des éditeurs du site, l'année du calendrier julien alors en usage commençait en mars et se terminait en février. Le calendrier actuellement en usage est le calendrier grégorien. Elle travailla sans relâche à bâtir le mouvement, prêchant, écrivant et voyageant. Même dans la soixantaine, elle fit à plusieurs reprises les pénibles voyages en Nouvelle-Angleterre et dans les colonies des Caraïbes, prêchant à ceux qui n'étaient pas convaincus et affermissant les convaincus. Les cruautés extrêmes auxquelles les amis en Nouvelle-Angleterre avaient été exposés suscitèrent une profonde sympathie chez leurs compagnons restés au pays. Elizabeth Houghton partageait largement ce sentiment, et bien qu'elle eût conscience que la souffrance l'attendait presque certainement, elle quitta son foyer en 1661, sous un appel religieux de Dieu, pour se rendre dans cette province persécutrice. Cet appel de Dieu à quitter son foyer, son mari et ses enfants dut être très déconcertant, malgré le bien qu'elle voyait devoir en résulter. Nous avons des récits d'hommes Quakers qui, après avoir reçu l'appel de quitter leur famille et leur foyer, résistèrent et retardèrent leur décision en raison de l'impact sur leur vie. Nous ne savons pas si Elizabeth retarda sa décision, seulement qu'elle répondit. Cette visite transatlantique et une autre qui la suivit rapidement l'occupèrent pendant plusieurs années. Les 9 flagellations publiques qu'elle reçut au Massachusetts dépassent tous les autres nombres que l'auteur de cet ouvrage a vus. On la dénuda jusqu'à la taille, et les mains attachées à un poteau, on la fouetta publiquement avec un fouet à 3 lanières, muni de 3 nœuds à l'extrémité, afin d'arracher le plus de chair possible à chaque coup. Lors de son 3e voyage en Nouvelle-Angleterre, sa fille, qui voyageait avec elle, fut elle aussi fouettée de la même manière. En tant que ministre de l'Évangile, elle semble avoir joui d'une grande estime parmi ses amis, et bien qu'elle fût d'un âge très avancé, lorsque George Fox visita les îles des Indes occidentales et l'Amérique en 1671, elle fut parmi ceux qui l'accompagnèrent dans ce voyage important et de longue durée. Les dirigeants puritains, congrégationalistes d'Amérique manifestèrent une haine et une envie profondes envers les Quakers, arrivés pour la première fois en 1656. Parce que les Quakers soutenaient que le cœur du croyant devait être entièrement purifié pour pouvoir marcher sans péché, jusqu'à ce que même l'inclination au péché soit ôtée, les puritains en étaient exaspérés, car les puritains croyaient être le peuple élu de Dieu, sauvé par grâce sans autre exigence que l'assiduité à l'Église. Toute opinion différente sur la manière de plaire à Dieu ne pouvait venir que du diable. Les puritains de Nouvelle-Angleterre, eux-mêmes ayant fui l'Angleterre pour échapper à la persécution, devinrent des persécuteurs encore pires que ceux qu'ils avaient fui. En l'année 1661, Elizabeth Houghton ressentit la conduite de Dieu à visiter la Nouvelle-Angleterre. Avec son ami John Broksop, elles sentirent la nécessité de rendre témoignage à la vérité auprès des puritains qui persécutaient si méchamment les Quakers jusqu'à la mort. Ces persécutions eurent lieu au Massachusetts et au Connecticut. Elles comprirent qu'elles pourraient devoir mourir pour leur témoignage, tout en montrant leur amour pour les âmes des puritains, dont elles espéraient qu'ils se repentiraient de leurs horribles persécutions. Elle avait 63 ans lorsqu'elle entreprit ce voyage, ce qui demanda beaucoup de courage de leur part, car 4 Quakers avaient déjà été exécutés au Massachusetts. Elle savait donc qu'elle faisait face à la possibilité de la mort. Pourtant, Dieu voulait de solides témoins pour s'opposer au mal des persécuteurs puritains. Les autorités avaient adopté une loi contre les maudits Quakers, qui rendait possible de bannir tout Quake de la colonie et de l'exécuter s'il revenait. En 1659, William Robinson et Marmaduke Stevenson avaient été pendus à Boston. Mary Dyer fut pendue en 1660 et William l'aidera en 1661. Commentaire des éditeurs du site, à propos de ses disciples, Jésus a dit « Le temps vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu », Jean 16, 2. Pour comprendre cette déclaration, il faut comprendre que quiconque est véritablement changé par Dieu afin de lui être agréable sera si différent que les gens se sentiront menacés par sa conduite et ses paroles, en particulier l'establishment religieux à qui l'on dit que son culte est vain et que son salut est imaginaire. Car de même que les Juifs avaient été pris par l'ennemi, de même le christianisme a été pris par l'ennemi. De même que les Juifs ont tué le Christ, de même les chrétiens ont tué de nombreux Quakers en qui Jésus avait été véritablement ressuscité pour gouverner leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, devenant ainsi leur vrai Seigneur et Maître. De même que les chrétiens ont tué les premiers Quakers, de même les chrétiens useront de violence contre ceux en qui le Seigneur a été ressuscité pour régner et les guider. Parce que les puritains de Nouvelle-Angleterre avaient fait une loi selon laquelle tout navire qui amenait un Quaker en Nouvelle-Angleterre serait condamné à une amende de sang et devrait ensuite les transporter de retour en Angleterre, elles ne purent trouver aucun navire disposé à les conduire à Boston. Elles prirent donc un navire allant en Virginie. Lorsqu'elles arrivèrent en Virginie, elles ne purent trouver de navire disposé à les transporter à Boston. Ainsi, hormis un court tronçon du voyage en bateau, elles voyagèrent par voie terrestre, ce qui était très dangereux. Après un long et pénible voyage, elles arrivèrent à Boston, mais là, elles ne purent rapidement trouver un endroit où loger, car quiconque fournissait un logement ou de la nourriture aux Quakers s'exposait à une lourde amende. Pourtant, finalement, une femme les accueillit. Le lendemain, elles se rendirent à la prison pour visiter leurs amis, mais le geôlier refusa de permettre leur visite et les arrêta, les conduisant au gouverneur du Massachusetts, Endicott, qui, usant de paroles grossières, les traita de sorcières. Il demanda à Elizabeth « Pourquoi es-tu venue ?» Elle répondit « Pour faire la volonté de celui qui m'a envoyée. » Et il demanda « Quelle est-elle ? » Elle répliqua « Vous avertir de ne plus répandre de sang innocent. » À quoi il répondit qu'il en pendrait encore des Quakers, mais elles lui disent qu'il était entre les mains du Seigneur, qui pouvait l'emporter le premier. Après l'emprisonnement, elles furent transportées à 2 jours de marche dans la nature sauvage, parmi loups et ours et au milieu de nombreux dangers. On les y laissa pour mourir, mais elles continuèrent à marcher jusqu'à atteindre Rhode Island. De cette colonie, elles partirent en visite aux Indes occidentales, mais croyant qu'il leur était demandé de revisiter la Nouvelle-Angleterre et de témoigner contre l'esprit de persécution, elles revinrent peu après à Boston. Les autorités, toutefois, déterminées à les expulser, les firent arrêter et reconduire au navire dans lequel elles étaient venues. À son bord, elles retournèrent en Virginie, puis peu après dans leur pays natal. La lettre suivante, écrite par Joan Broksop à Margaret Fell après son premier bannissement de Boston, est encore conservée parmi les manuscrits originaux de Swossmoor. Barbade, ce 9 du 6e mois, 1661. Margaret Fell, chère en l'amour et la vie immuable de mon Père Céleste, je te salue affectueusement, toi qui, dans son amour éternel, m'a appelé à porter son témoignage pour l'amour de son nom, dans cet amour et cette vie, je t'embrasse, et j'ai souvent été rafraîchi au souvenir de toi. Cher cœur, prie pour moi, afin que je puisse y être gardé à jamais, et si tu as liberté et occasion, rappelle mon amour à George Fox et à R.W. Et mon cher amour va à tous tes enfants, dont je suis l'une des moindres. Cher cœur, je ne ferai pas grand mention des événements, car j'attends que d'autres amis en aient donné de plus amples informations. Seulement ceci, par ordre de la cour de Boston, moi et 27 autres amis avons été sortis de prison et chassés de constable en constable jusqu'à ce que nous soyons hors de leur juridiction. Je ne suis pas encore clair des ordres de Dieu concernant ce pays, mais je m'attends à y retourner encore dans peu de temps. Je suis arrivé par terre ici sur cette île, il y a environ une semaine, où j'ai trouvé la chère Anne Clinton avec Josiah Cole, dont le cher amour t'est rappelé. J'ai trouvé ici plusieurs autres amis aussi, par qui j'ai été beaucoup rafraîchi, ainsi porte-toi bien. Ton cher ami, Johan Broxop P.S. Elizabeth Houghton, ma compagne, te salue affectueusement. Quand Elizabeth rentra chez elle en Angleterre, son bétail fut saisi parce qu'elle ne payait pas la dîme. Le Seigneur lui ordonna d'aller à Londres pour faire appel au roi et à son conseil. Elle déclara que son appel ne visait pas tant à traiter sa propre propriété qu'à utiliser l'injustice de la saisie de son bétail pour interpeller les autorités au sujet des Quakers persécutés, non seulement en Angleterre, mais aussi en Nouvelle-Angleterre. Le Seigneur lui avait dit, lors de sa traversée de retour vers l'Angleterre, qu'elle devait aller auprès du roi, qu'il l'écoute ou non, au risque de sa vie. Ainsi, en 1662, elle alla parler très fermement à la cour du roi, à Whitehall, ainsi qu'à de nombreux soldats, contre l'oppression des Quakers. Elle suivit le roi jusqu'à ses terrains de pommes, l'interpellant près de son carrosse, suppliant pour la justice. Elle le suivit dans ses promenades au parc, l'interpellant encore, mais sans jamais s'agenouiller. Elle se tenait à l'extérieur de la cour, l'attendant pour qu'il passe en carrosse, puis suppliait pour la justice. Elle entra à la cour, grâce aux sympathies éveillées des soldats, et prêcha au roi et à son conseil avec la puissance de Dieu levée en elle. Alors ils l'expulsèrent, lui interdisant d'y prêcher. Le lendemain matin, elle alla en sac et cendre à Westminster Hall, parlant contre les injustices des juristes, ce qui fut beaucoup remarqué et toucha beaucoup de monde. Elle écrivit au roi avec beaucoup d'éloquence, lui rappelant sa persécution en Nouvelle-Angleterre, son soutien au commissaire du roi, admonestant les puritains de ne pas combattre leurs lois empêchant la discrimination, et plaidant contre les emprisonnements oppressifs et les saisies de biens pour non-paiement de la dîme. Elle raconta aussi les cruelles persécutions qu'elle avait subies au Massachusetts. Elizabeth Houghton n'était pas depuis longtemps rentrée chez elle que le devoir de retourner en Nouvelle-Angleterre, plus particulièrement au Massachusetts, se raviva avec une force et une clarté accrues. En faisant une troisième tentative pour visiter cette colonie persécutrice, elle jugea conseillé, afin d'éviter le bannissement, d'obtenir si possible une licence du roi pour s'établir dans une quelconque des colonies britanniques, et d'acheter une maison pour y vivre, pour que les amis s'y réunissent, et un terrain pour y enterrer leurs morts. Elle se trouvait dans une situation matérielle très suffisante, et le roi, informé de ses expulsions répétées du Massachusetts, accorda volontiers la licence. Certains disent que le roi fut heureux de lui accorder ce qu'elle souhaitait afin de se débarrasser de sa présence qui convainquait. Ainsi autorisée, elle prit la mer sur un navire à destination de Boston, accompagnée de sa fille, Elizabeth. Le capitaine du bâtiment n'ignorait pas que ceux qui débarqueraient des amis dans cette colonie étaient passibles d'une lourde amende, mais comme sa passagère était munie d'un permis royal, il se crut à l'abri d'une telle imposition. À leur arrivée à Boston, les autorités tentèrent d'imposer au capitaine une amende de 100 livres et ne furent dissuadées de saisir ses biens pour ce montant qu'en raison de la licence en question. Désireuse d'accomplir rapidement l'objet de sa venue, Elizabeth Houghton s'efforça d'obtenir un logement pour elle-même et pour la sécurité de ses amis. Les dirigeants, qui avaient auparavant expulsé tous les prédicateurs Quakers anglais ayant osé franchir leurs limites, résolurent qu'Elizabeth Houghton ne s'établirait pas parmi eux et, au mépris de l'ordre royal, refusèrent péremptoirement de reconnaître son droit d'acheter des terres sur le territoire. Après des sollicitations répétées mais infructueuses auprès des autorités de Boston sur ce sujet, elle poursuivit sa mission évangélique vers les régions septentrionales du Massachusetts, au cours de laquelle elle fut soumise à de cruelles souffrances. À Hampton, elle fut emprisonnée pour avoir témoigné contre la rapacité d'un prêtre qui saisissait les biens d'un ami. Adevée par un temps très froid, on la mit au pilori et on l'emprisonna pendant 4 jours. En traversant Cambridge au retour, elle se sentit appelée à exhorter les habitants à la repentance, acte de dévouement pour lequel elle subit des sévices encore plus grands. Sur requête de la magistrature, elle fut arrêtée et pendant 2 jours et 2 nuits, enfermée dans un cachot infect sans nourriture et sans rien pour s'allonger ni même s'asseoir. Il peut être difficile d'estimer la quantité réelle de privations physiques endurées dans de telles circonstances, mais on imagine aisément qu'avec le sol humide d'un cachot pestilentiel comme seul lieu de repos d'une femme âgée pendant 48 heures, par temps froid et sans sustenance, ses souffrances durent être extrêmement grandes. Alors qu'elle était dans cet état de détresse, un ami, ému de compassion, lui apporta un peu de lait, mais pour cet acte de bonté chrétienne, les autorités de Cambridge le condamnèrent arbitrairement à une amende de 5 livres et le firent emprisonner. Le troisième jour de son incarcération, Elizabeth Houghton, amenée devant la cour, fut condamnée à être fouettée à travers 3 villes et expulsée de la colonie. Elizabeth fut alors dénudée jusqu'à la taille et fouettée à travers Cambridge, Wotton et Dedham, avec un fouet à 3 lanières munies de 3 nœuds à l'extrémité, qui déchirait la chair à Cambridge. Elle fut attachée au poteau de flagellation et reçut 10 coups. À Wotton, elle fut frappée de 10 coups avec des verges de saule, et à Dedham, 10 coups de plus, assénée avec une cruauté extrême alors qu'elle était attachée à l'arrière d'une charrette. Elle et sa fille furent également contraintes de marcher dans une neige profonde sur 80 milles, en voyageant entre les 3 villes, tout en étant attachées derrière une charrette. Commentaire des éditeurs du site. Quand quelqu'un entre dans le royaume, il vit dans le royaume avec Jésus en présence du Père, mais il marche aussi encore sur la terre, ressuscité avec Jésus pour être une nouvelle créature avec une vie nouvelle, et avec Jésus qui règne sur lui et le guide. La nouvelle créature est capable d'endurer bien plus de douleurs et de souffrances que l'ancien homme de chair qui est mort dans le baptême de feu et de mort. Misérablement déchiré et meurtri par ses sévices, la vieille souffrante fut alors placée à cheval et transportée dans la nature sauvage, où on la laissa vers la nuit, sans défense, pour mourir dans le froid de l'hiver. Selon toute probabilité humaine, sa vie aurait été sacrifiée dans de telles circonstances aggravées, et c'est, semble-t-il, ce que visaient ces persécuteurs inhumains. Ils espéraient, disaient-ils en la laissant dans la forêt sauvage, ne jamais la revoir. Cependant, leur dessein pervers fut déjoué. Elle fut remarquablement prise en charge par son divin maître et, à travers des déserts lugubres et des eaux profondes, elle eut finalement la faveur d'atteindre la ville de Lurobos, d'où elle rejoignit ses amis à Rhode Island, louant et magnifiant celui qui l'avait si manifestement soutenu sous ses cruelles épreuves et qui l'avait jugé digne de souffrir pour son grand nom. Elizabeth Houghton, lors de son bannissement de Cambridge, n'avait pas été autorisée à emporter ses vêtements et quelques autres objets. Après être donc restée à Rhode Island jusqu'à être remise, elle revint, accompagnée de sa fille, pour réclamer ses biens. Ayant atteint son objectif, et étant en chemin de retour vers Rhode Island avec sa fille et avec Sarah Coleman, une amie âgée de Scituate Pembroke, qui les rencontra par hasard dans les bois, elles furent arrêtées et conduites de nouveau à Cambridge, où toutes trois furent immédiatement emprisonnées. Les autorités, conformément à leur conduite précédente, ordonnèrent aux prisonnières, elle et sa fille aussi, d'être fouettées dans 3 villes et d'être chassées de leur juridiction. Le lendemain matin, elles reçurent donc le nombre habituel de 10 coups à Cambridge, et le même nombre dans chacune de 2 autres villes situées en direction de Rhode Island. Malgré les cruautés auxquelles Elizabeth Houghton avait ainsi été à plusieurs reprises exposée pour être entrée au Massachusetts, lorsqu'elle croyait que son divin maître l'exigeait, elle n'hésita pas à visiter de nouveau cette colonie. Avant la fin de l'année, où elle en avait été 2 fois si cruellement expulsée, elle se rendit une 3e fois à Boston pour prêcher, comme il est dit, la repentance au peuple, mais son message fut reçu avec mépris, et ses avertissements ne furent pas écoutés. Ici, comme à Cambridge, elle fut jetée en prison et reçut la sentence habituelle de Quakers vagabond. En exécution de l'ordre cruel, elle souffrit au poteau de flagellation à Boston, puis à l'arrière d'une charrette dans les villes de Roxbury et Dedham, et fut ensuite, pendant la nuit, dans son état lacéré, transportée dans la nature sauvage et laissée à mourir. Elle put toutefois, non sans grande difficulté, atteindre Rhode Island le lendemain. Bientôt encore, elle fut persuadée qu'il lui était demandé de retourner à Boston, et sans consulter la chair et le sang, cette ministre du Christ persécuté fut fidèle à l'appel divin. Cet acte de dévouement, cependant, fut de nouveau suivi de souffrances sévères. Elle fut fouettée depuis la prison de Boston jusqu'au bout de la ville, puis dans d'autres villes, et hors de la juridiction, on y ajouta la menace que si jamais elle revenait, il la mettrait à mort ou la marquerait à l'épaule. Astérisque astérisque commentaire des éditeurs du site, il marquait un profond H sur l'épaule des gens, le H désignant un hérétique. Cela arriva à plusieurs Quakers, dont un frère Norton au Connecticut. Plus d'informations sur les persécutions puritaines des Quakers en Nouvelle-Angleterre sont disponibles sur ce site. Cliquez ici. Ainsi, cette femme dévouée, de réputation honorable et de conditions aisées, parfaitement paisible et inoffensive, fut pour ses efforts fidèles d'accomplir sa mission évangélique, cruellement persécutée par 3 emprisonnements, 9 fouettements sévères et 2 expositions périlleuses dans la nature sauvage, afin de périr par les bêtes féroces ou par le froid et la faim. Mais si ses afflictions abondaient ainsi, ses consolations intérieures coulaient encore bien plus abondamment, dans le précieux plaisir qu'elle en tirait, elle déclara sa volonté d'endurer bien davantage, pour la propagation de la justice et par amour pour les âmes de ses semblables. Il ne ressort pas combien de temps Elizabeth Houghton demeura en Nouvelle-Angleterre à l'occasion de cette visite. Toutefois, les douloureuses souffrances auxquelles elle avait été soumise ne l'empêchèrent pas de revenir dans ce pays quand le devoir religieux l'y appelait. À l'époque de la mort d'Endicott Astérisque au premier mois de 1665, nous la retrouvons de nouveau à Boston, et puisqu'elle fut emprisonnée pour avoir assisté aux funérailles de ce bigot notoire, il est probable qu'elle tenta d'exhorter l'Assemblée contre la persécution et d'attirer son attention sur le jugement du Trezor sur le défunt, comme l'atteste l'état misérable dans lequel il mourut. Astérisque, astérisque, Endicott fut visité, dit Bess, d'une maladie sale et repoussante, à tel point qu'il puait de son vivant, et mourut dans la pourriture. Le gouverneur vicieux, qui en avait fait fouetter tant au point que toute la chair de leur dos fut détruite, fut lui-même affligé de telle sorte que son dos se mit à pourrir lentement, avec une puanteur qui chassait quiconque aurait voulu le soulager. Il est remarquable que beaucoup de ceux qui furent les plus ardents dans la persécution des amis en Nouvelle-Angleterre furent soit brusquement retranchés, soit finirent leurs jours misérablement. Bellingham mourut en proie au délire, Adderton fut jeté de son cheval et mourut sur le champ Norton, un ministre de Boston mourut subitement, ses dernières paroles étant « La main ou les jugements de Dieu sont sur moi ». Pour lire davantage sur les jugements de Dieu sur les autorités de Boston, cliquez ici. Deux fois ensuite, elle fut emprisonnée à Boston, une fois à Braintree et une fois à Salem. Dans ce dernier lieu, son cheval lui fut aussi pris, ce qui l'obligea pour se rendre à Rhode Island à parcourir 70 milles à pied. À travers toutes ces épreuves et afflictions dans ce pays, elle fut grandement réconfortée par la présence de son sauveur. Dans le précieux plaisir qu'elle en tirait, elle se sentait prête à endurer bien davantage pour l'amour de lui et de ses semblables. « Oui, observait-elle, l'amour que je porte aux âmes des hommes me rend prête à subir tout ce qu'on peut m'infliger. » Elle regagna de nouveau l'Angleterre, où elle reprit son travail de prédicatrice itinérante, mais en 1665, elle fut incarcérée pendant 3 mois à la prison de Lincoln, accusée d'avoir troublé une assemblée. George Fox, le dirigeant Quaker, demanda des volontaires pour le service chrétien aux Indes occidentales. Elizabeth se porta immédiatement volontaire, se sentant jeune de 71 ans. Elle arriva à la Barbade où, pendant plusieurs semaines, elle prêcha et exhorta dans le cadre de la mission Quaker, mais lorsqu'ils se rendirent ensuite en Jamaïque, elle mourut une semaine après avoir débarqué. Ce jour-là, le 8 janvier 1672, James Lancaster, un Quaker, trouva Elizabeth Houghton faible et luttant pour respirer. Cela était quelque peu surprenant car la veille encore, ce géant Quaker était allé en ville exhorter des membres de la Société des Amis. James monta à l'étage et alla voir Elizabeth. Elle était très enflée et je dis qu'on lui donne de l'air. Ils ouvrirent les fenêtres et défirent son corsage. Alors son souffle revint et elle leva les yeux, me vit mais ne put parler. Je dis « Mettons-la au lit de peur qu'elle prenne froid » et nous le fîmes, et elle me regarda et je la regardai. Ma vie du Christ au-dedans s'éleva vers elle et sa vie répondit à la mienne avec une grande joie entre nous. Et elle dit « C'est bien, James, que tu sois venu » et elle passa ses bras autour de moi et dit « Béni soit le Seigneur Dieu qui nous a rendus participants de ses miséricordes célestes. » Et d'autres paroles dans le même sens, et elle m'embrassa d'un baiser et s'allongea et se tourna sur le côté, et ainsi son souffle devint de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il s'éteigne, et elle s'en alla comme si elle s'était endormie, et nul ne sut qu'elle était partie, sinon que son souffle s'en était allé. Avec une telle paix, Elizabeth Houghton acquit la mort alors qu'elle était en mission d'encouragement en Jamaïque. Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3 fins. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.